Nous sommes dans le désert de Syrie, en l'an 53 avant Jésus-Christ. Rome a commencé sa formidable expansion. Crassus mène une campagne en Orient. Sa mission, conquérir l'Empire Parthe. Pour cela, le proconsul dispose de troupes nombreuses et disciplinées. Cependant, en quelques jours à peine, la fière armée romaine va connaître l'une des plus cuisantes défaites de son histoire. Les forces mobiles des cavaliers barbares ont raison des loups fantassins venus de loin. C'est la bataille de Carrhae qui illustre la confrontation de deux modèles de combat complètement différents. Voici donc la première bataille de notre série avec les officiers stagiaires de l'école de guerre. Je suis donc en compagnie du chef de bataillon, Baptiste Aubier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons donc parler de cette bataille de Carrhae qui intervient à un moment particulier de l'histoire de Rome. La République est alors confiée à trois hommes, César, Pompée et Crassus. Et c'est ce dernier qui arrive sur le terrain avec des moyens considérables. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des effectifs déployés ?
Alors, les effectifs que Crassus possède sont difficiles à estimer dans le détail. On sait qu'il a 11 légions au moment où il part de Rome, ce qui est considérable. À la même époque, César est en train de conquérir la Gaule avec 10 légions. Mais les historiens romains tendent à oublier les auxiliaires ainsi que les troupes qui ne sont pas directement au contact des légions. On peut estimer néanmoins qu'il a une troupe d'environ 70 000 hommes au moment où il attaque l'Empire Parthe.
Alors, il a beaucoup de monde, des armements lourds aussi, et il apporte aussi une ambition particulière, peut-être plus personnelle.
Tout à fait. Alors, ce n'est pas une campagne neutre pour Crassus. Crassus, qui est en compétition avec Pompée et César, a une fortune immense. Mais il lui manque, par rapport à ses deux adversaires, la gloire militaire que César a acquis en Gaule et que Pompée a acquis en Espagne notamment. Donc il a besoin de la campagne contre les Parthes pour redorer son blason vis-à-vis du peuple romain, vis-à-vis de l'opinion publique. Et il a besoin de victoires qui le mettent au même rang que ses rivaux, qui sont aussi ses alliés. Donc pour cela, il a décidé de conquérir l'Empire Parthe. Pour lui, ça veut dire marcher sur les traces d'Alexandre. Il envisage de s'emparer de l'Empire Parthe et de poursuivre en direction de l'Inde, pourquoi pas de la Chine. Il a des ambitions extraordinairement élevées. Mais pour réaliser ces ambitions, la première étape, c'est de rencontrer et détruire l'armée parthe et de s'emparer de leur capitale.
Alors, quand il arrive, il a un plan en tête. Comment les choses devraient-elles se passer selon lui ?
Alors, selon lui, il va marcher d'abord directement sur l'Empire Parthe. Il compte sur les alliés qui sont présents dans la zone. Donc, on a un certain nombre de petits royaumes qui sont sous le protectorat romain. Royaume d'Arménie, d'Osroène, de Cappadoce. Il compte sur le caractère massif de son armée pour rencontrer les Parthes, tout simplement, et les vaincre en rase campagne. La réalité, c'est que Crassus ne sait pas exactement ce qu'est l'armée parthe. Il ne connaît pas bien les Parthes. Il ne connaît ni leur modèle de combat, ni leur réseau, leur organisation territoriale, ni la façon dont ils comptent s'opposer à cette invasion. Pour lui, ce sont des barbares, et par définition, les barbares ne peuvent pas tenir face à l'infanterie romaine disciplinée et lourdement armée.
En face, il y a un autre homme, un autre général, il s'appelle Surena, et lui reçoit une autre mission, c'est celle de ralentir à tout prix l'avancée des Romains.
Tout à fait. Alors en face, du côté parthe, le roi des Parthes a décidé de diviser son armée en deux. Avec son armée principale, il va attaquer l'Arménie. L'Arménie, c'est l'état tampon entre Rome et les Parthes, qui couvre une très grande surface, beaucoup plus que l'Arménie actuelle, à peu près le tiers est de la Turquie et une partie du nord de l'Irak. Et c'est l'ennemi à conquérir pour les Parthes. Il va donc attaquer avec son armée l'Arménie, ce qui fait d'ailleurs que le roi d'Arménie va être obligé de quitter Crassus, dont il était l'allié, pour défendre son propre territoire. Et pour pouvoir mener cette expédition à bien, il a besoin qu'il y ait une seconde troupe qui soit chargée de ralentir Crassus, en langage militaire, de le freiner. Et il nomme à la tête de cette troupe l'homme qui est connu sous le nom de Surena par les historiens, dont on ne sait pas grand-chose en réalité, à part qu'il a remporté la bataille de Carrhae. On sait que c'était un très haut dignitaire, probablement affilié à la famille royale. Et en tout cas, les troupes qu'on lui confie, la mission qui lui est confiée, qui est de ralentir Crassus et d'empêcher la conquête de la capitale parthe, est suffisamment importante pour qu'il soit jugé comme étant de très haut rang.
Alors en langage militaire, on pourrait dire qu'il a procédé à une action de freinage suivie d'un coup d'arrêt.
Tout à fait. En fait, sa mission globale, c'est une mission de couverture. c'est-à-dire en langage militaire, il doit s'opposer à une action ennemie qui pourrait menacer le bon déroulement de l'action principale amie, à savoir la conquête de l'Arménie. Et pour ce faire, il va d'abord freiner, c'est-à-dire harceler la progression romaine tout en cédant du terrain, en lui infligeant des pertes, ce qui amène les Romains à allonger leur ligne logistique et à affaiblir leurs troupes pour laisser des garnisons sur l'ensemble de cette ligne. Et à l'issue de cela, il va mener ce qu'on appelle un coup d'arrêt, c'est-à-dire une action de combat décisive face à cette troupe affaiblie sur un terrain choisi à l'avance.
Alors cette action décisive, c'est justement la bataille de Carre, qui est donc le cœur de notre sujet. Quelles sont les différentes étapes de cette bataille? Parce que les Romains vont vraiment céder, user, harceler, beaucoup plus qu'ils ne l'auraient cru.
Alors les Romains, lorsqu'ils comprennent que les Parthes s'apprêtent à livrer bataille, décident d'accepter immédiatement le combat. Parce que pour les Romains, la bataille décisive, c'est le saint graal de l'expédition militaire qui devra permettre de battre les Parthes, de détruire leur armée, de saisir leur capitale. Donc à partir du moment où ils saisissent l'opportunité de cette bataille, ils y vont, tout simplement. En face, les Parthes ont choisi le terrain et ont choisi l'axe d'approche. Les Romains se sont déployés en carré. Crassus a bien compris que le danger, c'est la cavalerie parte. Parce que les Romains n'ont que très peu de cavalerie. La force des Romains, c'est l'infanterie lourde, disciplinée. En face, on a une armée parte de 10 000 hommes, 7 fois moins que Crassus, mais entièrement composée de cavaliers. La plupart sont des cavaliers archers, qui est un système d'armes complet, caractéristique de l'armée parte, et plus largement du modèle de combat nomade. Et il y a également un certain nombre de cuirassiers lourdement armés, qu'on appelle des cataphractaires, qui sont eux équipés pour la charge. Face à ce qu'ils considèrent comme la menace pour la cohésion de leur rang principal, c'est-à-dire les cataphractaires, les Romains se déploient en carré, creux en son centre, pour faire face à la menace d'où qu'elle vienne. Sauf que les Parthes ne vont pas aller au contact, ils ne vont pas aller au choc. Ils se contentent d'encercler les Romains avec leur réseau de cavaliers archers et de cribler de flèches les rangs romains. C'est-à-dire que ce que les Romains voyaient comme un choc au mot tactique est utilisé comme un choc stratégique par les Parthes, mais comme un combat à distance tactique. Et cette tactique, elle va être redoutablement efficace parce que les Romains harcelés ne peuvent répondre si ce n'est éventuellement en engageant leur cavalerie légère. Ce qu'ils font au bout d'un moment pour rompre l'encerclement. Ils envoient leur petite unité de cavalerie légère accompagnée d'un contingent d'infanterie pour tenter de forcer le contact. Et c'est justement à ce moment-là qu'ils tombent dans l'embuscade tendue par les Parthes. Cette petite unité de cavalerie légère fait face d'abord aux archers qui se dérobent et qui, en se dérobant, livrent cette unité au contact de la cavalerie lourde cataphractaire qui va la détruire et la tailler en pièces. Du coup, la sortie romaine, qui s'achèvera par une reddition des troupes au contact des Parthes, n'a pour simple résultat que la destruction totale de leur cavalerie. À partir de là, les Parthes de nouveau encerclent l'armée romaine et continuent à cribler de flèches l'armée romaine sans chercher le contact, sauf que les Romains n'ont plus aucune capacité de réaction. On a un système combiné d'utilisation de la cavalerie légère et de la cavalerie lourde Parthes qui est passionnant.
C'est justement là que les Romains espéraient épuiser les ressources des Parthes, notamment au niveau des flèches, parce que c'est une des faiblesses des archers, c'est de voir leurs munitions disparaître. Or, les Parthes avaient anticipé ce problème pour tenir sur la durée.
Tout à fait. Les Romains, en fait, savaient très bien que les Parthes avaient des cavaliers archers, mais généralement, quand un cavalier archer tire, au bout de quelques minutes, il épuise sa réserve de flèches. C'est un petit peu la faiblesse de ce système de combat. Or, pour y faire face, Surena a prévu d'organiser tout un réseau de ravitaillement logistique en flèches, tout simplement à base de chameaux porteurs de flèches. Et il organise une relève permanente de ces unités qui, lorsqu'elles ont vidé leurs flèches, retournent se réapprovisionner auprès des chameaux porteurs de flèches, et le relais est pris par d'autres unités de cavaliers archers, ce qui fait que le tir est incessant, que la réserve de flèches ne s'épuise pas, et ce que les Romains considéraient comme une phase préalable d'une quinzaine de minutes va en réalité se prolonger pendant plusieurs heures, pendant lesquelles ils ne peuvent pas répondre. Et c'est cette incapacité à répondre qui va déclencher des réactions désespérées, comme celle de la tentative de percer de la cavalerie.
D'accord. Et alors, du coup, cette bataille se solde par une catastrophe. Dans un premier temps, on estime qu'environ la moitié de l'effectif romain meurt au combat. Et puis ensuite, les troupes se dispersent et sont pour la plupart massacrées. Ce sont des pertes colossales et on peut même parler d'une humiliation, non, pour l'armée romaine ?
Tout à fait, parce que finalement, l'armée romaine a... À l'instant où elle a rompu son lien moral, ce qui est une notion importante dans l'armée romaine, c'est-à-dire l'unité morale qui fonde les légions, va commencer à se replier, mais non pas de façon groupée, en petits paquets. C'est-à-dire que les chefs fuient les uns après les autres, on peut véritablement parler de fuite, en emmenant une partie des troupes qui, en général, sont écrasées par l'armée parthe qui les rejoint plus loin. Sans doute plus de la moitié en fait, des Romains présents à Carthage ont été détruits, puisqu'on estime que la moitié de l'armée est rentrée, y compris toutes les garnisons que Crassus avait laissées en place. Et ça, c'est d'autant plus vécu comme une humiliation que les Romains ont perdu 7 aigles durant cette bataille. L'aigle, c'est l'emblème de la Légion romaine. C'est un morceau de bois sculpté et décoré, représentant une aigle, l'emblème de la République. C'est ce qui fonde le lien moral. C'est une personnification, une véritable incarnation de l'identité de la Légion. Perdre une aigle pour un légionnaire, c'est un désastre, c'est un déshonneur personnel et collectif absolu. Perdre 7 aigles en une seule fois, c'est du jamais vu dans l'histoire de Rome depuis que les aigles existent. Et ce sera tellement traumatisant pour les Romains que, bien après cette guerre, une vingtaine d'années après la guerre de Crassus, lorsqu'Auguste mènera lui-même une guerre contre les Parthes, il fera de la restitution des 7 aigles perdus à la bataille de Carthage une des conditions à la signature du traité de paix, ce qui marque bien la charge symbolique énorme pour les Romains qu'a représenté la perte de ces aigles.
Nous avons bien compris les forces en présence lors de cette bataille et on pourrait peut-être l'extrapoler à un modèle de combat particulier qui oppose deux cultures militaires complètement différentes. Est-ce que schématiquement, vous pourriez nous les décrire ?
On a d'un côté l'armée romaine. L'armée romaine, elle est considérée par les historiens comme la quintessence du modèle de combat occidental. C'est un modèle de combat qui a pris son origine en Grèce lors du combat hoplitique et qui est concrétisé à ce moment-là par le système d'organisation romain. Ce système, il est simple. Tout doit être fait pour la bataille, pour le choc décisif qui doit permettre de remporter la victoire en détruisant l'adversaire. Les Romains ont donc une armée d'infanterie lourdement armée, fortement disciplinée, l'armée la plus disciplinée au monde, et tous les accessoires au choc, c'est-à-dire la cavalerie, le harcèlement, le tir indirect, ne sont vus que comme des phases préparatoires au combat corps à corps, qui doit marquer la puissance de la Légion romaine parce qu'elle est la mieux entraînée, la mieux armée et surtout la plus disciplinée. Et ce modèle, jusqu'à Carthage, n'a finalement connu que des succès. Il a permis de vaincre toutes les organisations dites barbares qui se sont opposées à Rome. En face, on a le modèle de combat parthe, qui représente le modèle de combat nomade, tel que le définit le général Hubin notamment. C'est-à-dire que les parthes sont déjà sédentarisés au moment de Carthage, mais ils ont gardé de leur tradition des modèles de combat nomades. Or, ce modèle de combat nomade, qu'on retrouvera dans l'histoire du monde jusqu'au Mongol Gengis Khanid au XIVe siècle, il se caractérise par le refus absolu du contact. Ce sont des nomades cavaliers qui tirent à distance, qui harcèlent, qui épuisent et qui ne vont au contact que quand l'unité d'en face est déjà vaincue moralement. Donc il y a vraiment autour de ces deux manières de combattre, non seulement de l'entraînement, des armes, une organisation associée, mais également une mentalité associée. Pour un Romain, et c'est très important, fuir, se dérober, se cacher, tromper, c'est lâche. C'est considéré comme perfide. La ruse n'est absolument pas vue favorablement du côté romain. La ruse, elle est vue comme une perfidie. Pour un soldat romain, le plus important, c'est d'être honorable, d'être fidèle à ce qu'ils appellent la fides. C'est une notion très importante dans le modèle de combat romain. La fides, c'est l'honneur du guerrier. C'est la conformité avec ce qu'un guerrier doit faire pour être honorable. Et tromper la fidesse, c'est faire étymologiquement une perfidie. Et la perfidie, c'est l'acte contraire à la fidesse qui déshonore le guerrier. On a vu des généraux romains exécutés pour lâcheté, on n'en a jamais vu exécutés pour incompétence. Le plus important est de ne pas être lâche. Et quand ces deux modèles se rencontrent, comme Akkar, finalement, ils se découvrent. Ils découvrent qu'ils n'ont absolument rien en commun et qu'ils ont des systèmes de combat qui ne sont absolument pas compatibles. Sauf que la grande différence entre les Parthes et les Romains, et c'est ce qui explique le résultat, c'est que les Parthes le savent. Les Parthes ont déjà été confrontés à des modèles de combat de type romain. Ils ont étudié l'armée romaine, visiblement. Ils savent exactement comment l'armée romaine va combattre. Et c'est pour ça que Surena se contente de harceler avant d'aller au contact. C'est pour cela que Surena a organisé tout son système de ravitaillement en flèche. C'est pour cela que Surena a su attendre pour choisir le moment, le lieu et l'heure. Alors que les Romains, finalement, ils arrivent au combat avec une méconnaissance totale de l'armée parthe, de son système de combat, et ils ne comprennent pas pourquoi ces gens-là refusent un contact, ce qui est vu comme le summum du déshonneur dans la mentalité romaine.
Cette méconnaissance dont vous parlez, on peut la retrouver dans d'autres batailles au cours de l'histoire. On peut penser à Azincourt, par exemple. Et aujourd'hui, vous, en tant qu'officier, est-ce que vous avez pu être sensibilisé aussi à l'importance de comprendre des logiques différentes de combat ?
Alors oui, c'est effectivement très important. Quand on étudie l'histoire militaire, on est frappé par le nombre de fois où finalement un des deux adversaires n'a pas compris non seulement comment combattre, mais également comment raisonner son adversaire, ce qui est fondamental pour pouvoir anticiper ses réactions. Alors vous avez cité Azincourt, évidemment, où les chevaliers français ont été détruits par les archers anglais parce qu'ils n'imaginaient pas qu'on pouvait combattre à distance. Mais finalement, l'apparition de l'arme à feu a également vu un certain nombre de débats sur le fait de savoir si on pouvait utiliser l'arme à feu avec honneur. On sait que le vaillant chevalier Bayard faisait systématiquement pendre tous les arquebusiers qu'il capturait parce qu'il considérait que l'usage d'une arquebuse, une des premières armes à feu, était déshonorant. Avec ça, le moindre paysan pouvait tuer le plus valeureux chevalier sans s'exposer lui-même. Et ce type de débat, on l'a eu jusqu'à nos jours. On l'a eu lors de l'apparition des canons, on l'a eu lors de l'apparition de l'avion et du bombardement stratégique. On l'a vu également lors de l'apparition de la bombe atomique. Finalement, c'est le moment où on rencontre un système de combat qui met visiblement en défaut celui que nous avions conçu, parce qu'il est pensé différemment. Et le premier réflexe dans ce genre de cas, c'est de considérer que l'adversaire, finalement, ne joue pas le jeu, qu'il transgresse les lois de la guerre en utilisant un système de combat qui n'est pas le nôtre. Et ça, c'est une tendance contre laquelle il faut lutter, parce qu'à partir du moment où un système de combat fonctionne, et surtout s'il fonctionne dans le temps long, on est tenté d'y voir la norme absolue de la guerre, c'est-à-dire le système dans lequel on doit naturellement combattre. Il acquiert une valeur normative qu'il n'a pas à l'origine. Et si on ne prend pas le temps de considérer que l'adversaire ira nécessairement sur le terrain où il est le plus fort, et non pas sur celui où il est le plus faible, on ne comprendra pas pourquoi il va contourner notre système de combat en adoptant une technique que nous jugerions lâche dans notre système de combat. C'est actuellement tout le débat des guerres dites asymétriques, voire du terrorisme. Le terrorisme est aussi un contournement du système de combat à l'occidental dans lequel l'insurgé n'a aucune chance d'obtenir la victoire.
Vous pensez peut-être à d'autres terrains, l'Afghanistan par exemple ?
L'Afghanistan, c'est un excellent exemple. Évidemment que les talibans n'avaient aucun intérêt à grouper leur armée en bataillons pour attaquer les positions occidentales. Ils se seraient fait détruire par la supériorité de la puissance de feu occidentale. En revanche, mener une campagne d'attentats terroristes, mener une campagne de contrôle de la population, et indépendamment du fait que ces actes sont moralement extrêmement condamnables, évidemment, il n'en reste pas moins que ça a une réalité tactique d'efficacité qui est réelle et qui est difficile à leur refuser.
Et pour conclure, Baptiste Aubier, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette bataille de Akkar pour votre avenir ?
Alors, ce que je retiens
dans l'armée.
Ce que je retiens à titre personnel, finalement, c'est que s'il faut bien concevoir, s'il faut bien réfléchir en avance de phase à ce que va faire l'adversaire, il faut le faire de façon à essayer de se placer dans sa tête. Si je réfléchis en lui prêtant mes intentions, je serai forcément systématiquement dépassé. En tant que chef militaire, le constat que je fais, c'est que vouloir raisonner comme l'adversaire, ça implique de comprendre la totalité de son système de pensée, de son histoire, de ses références culturelles, de ses buts, de ses limites, pour pouvoir s'approcher au plus près de ce qu'il peut imaginer comme étant du domaine du possible.
Eh bien, un grand merci. Nous vous retrouvons donc pour un deuxième épisode de cette série sur les batailles avec Napoléon et Borodino en 1872. Merci et à bientôt.